ensemble, réunis. Merci aussi à Marcel, son épouse et leur fille. Merci à chaque frère et chaque sœur. Nous allons chanter de tout notre cœur, de nos montagnes et nos vallées. Or, avant qu'on le fasse, je voudrais demander à Loulou, tu veux bien prier? Que le Seigneur bénisse cette réunion courtement. Merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Oui Jésus. Merci Père. Oui Jésus. Merci Père. Amen. Amen. Merci Loulou. Donc nous allons chanter de nos montagnes et nos vallées. Dieu a un peuple nombreux dans cette région, hein, nous le croyons, hein, nous croyons que Dieu veut faire des choses merveilleuses, et aujourd'hui c'est l'enseignement, alors c'est tellement important aussi de le louer, hein, c'est un moment de louange, de nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre, et si nous voulons servir, Dieu nous appelle à connaître Dieu. Si nous connaissons Dieu, nous allons pouvoir le servir. Nous savons pourquoi nous allons le faire. Nous savons le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre. Nous avons l'objectif de le glorifier, parce que la parole de Dieu nous parle. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, il est le Créateur, il fait de nous sa demeure, d'être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays, nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier, et sa parole notre épée. Son donnée, pour tenir ferme et pour tout surmonter, nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Chantons dans le monde entier. Dans le monde entier, le Seigneur est souverain, c'est lui le chef, le maître, il règne.
Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant, et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, toi, toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, toi, toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Tu n'es rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, toi, toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, toi, toujours le roi, oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, toi, toujours le roi. Dans ma vie, toi, toujours le roi.
Merci Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Bonjour à tous. Alors, je vais donner les annonces comme ça ce sera fait et on pourra laisser la place au pasteur Williams. Voilà, ce dimanche, nous avons Chris Christensen qui viendra apporter non seulement la louange, mais aussi un enseignement sur l'adoration, hein, être des adorateurs, c'est un style de vie, alors je crois que ce sera fort important. Voilà, alors dans le dimanche suivant, il n'y aura pas de culte, parce que le rallye de Wallonie passera devant les maisons ici, et le culte se fera de samedi à 19h. Je crois que c'est important, ce sera le 2 avril au lieu du 3 avril. Le 2 mai, pardon, au lieu du 3 mai, excusez-moi, le 2 mai. Le 3 avril, on était aux États-Unis et c'était le culte de Pâques, à Champion. Voilà. Alors, je vais laisser toute la place au pasteur Mike Williams. C'est vrai que le temps est court puisqu'il doit reprendre le train à Namur.
Bonsoir, frères et sœurs. C'est à nouveau une joie d'être avec vous. Si le sujet qu'on va aborder ce soir n'est pas tellement joyeux, vous êtes prêts pour la grande tribulation? Nous arrivons ce soir au commencement de la troisième section du livre de l'Apocalypse. Si vous vous rappelez, la première soirée, nous avons vu au premier chapitre que Jean a eu l'instruction d'écrire. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Les deux premières parties, nous les avons vues déjà. Les choses qu'il a vues, la révélation de Jésus-Christ, premier chapitre. Celles qui sont, les lettres aux églises. Nous sommes toujours dans cette époque de l'église, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous allons lire à partir du premier verset du chapitre 4, et on verra jusqu'où on arrive ce soir, parce que dans ce chapitre 4, l'enseignement est tellement riche, il faudrait plusieurs soirées vraiment pour l'expliquer profondément. Premier verset. Après cela, c'est Jean qui parle, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Il y a deux indications ici de temps. Après cela, et dans la suite, on est dans une chronologie. Jean est transporté dans l'esprit de la terre au ciel. Il s'est occupé des églises sur la terre, et maintenant il est enlevé en esprit au ciel. Et à partir de maintenant, il va voir les événements sur la terre et dans le ciel, mais il ne va pas les voir de la terre, il va les voir du ciel. Vous avez remarqué que la position d'où on voit quelque chose, on le voit autrement. N'est-ce pas? Vous êtes jamais monté sur une tour? Je suis allé une fois sur la tour Eiffel. Paris est tout à fait différent quand vous êtes en haut, n'est-ce pas? Que quand vous êtes en bas. Vous voyez beaucoup plus. Il y a une autre lumière. Et maintenant, Jean, il va voir les événements sur la terre et dans le ciel, mais il va pas les voir comme on les voit quand on est sur la terre, comme les hommes les voient. Il va les voir comme on les voit quand on est au ciel, comme Dieu les voit. Et je suis ici pour donner une étude biblique, pas pour prêcher, mais un prédicateur, c'est très difficile de ne pas prêcher. Alors je dois dire que pas seulement le livre de l'Apocalypse, mais notre vie. Si seulement nous pouvons le voir comme Dieu le voit, plutôt que comme le monde le voit, on le voit tout à fait différemment. Un chrétien doit apprendre à voir sa vie, sa situation, ses circonstances, comme Dieu le voit, alors que très souvent nous les regardons comme le diable les présente. N'est-ce pas? J'ai eu un frère au téléphone aujourd'hui, son épouse a un cancer. Pas une bonne nouvelle. Docteur, les docteurs déjà ont dit grave, grave, grave. Et le frère, il me dit, mon épouse et moi, on écoute avec une oreille le docteur, mais avec l'autre oreille on écoute le Seigneur. Et nous sommes tout joyeux malgré. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes joyeux parce que, n'est-ce pas? Mais un chrétien reste joyeux malgré. Et Jean, maintenant, il est privilégié de voir ce qui se passe sur la terre. Mais il le voit comme Dieu le voit. Et ça va lui donner une toute autre vue. Et donc une toute autre explication. Il va voir, regarder la suite des événements, donc après l'aide de l'Église. Il ne se voit pas, donc, sur la terre pendant la grande tribulation. Il voit cette grande tribulation de distance. La grande tribulation est sur la terre, pas au ciel. Il n'y a pas de grande tribulation au ciel, heureusement. N'est-ce pas? Si on savait qu'il y avait des tribulations là-haut, je ne sais pas si on serait tellement enthousiaste pour y aller. On va revenir dans un instant sur la question de la grande tribulation et l'enlèvement de l'Église. Avant? Après? Comment? Mais avant cela, je voudrais avec vous regarder le texte de nouveau. Parce que la description, ce que j'en vois, et ce qu'il entend au ciel n'est pas la même chose qu'on entend sur la terre. Vous êtes d'accord? Si on est dans le ciel, par exemple, nous venons de chanter. Vous chantez très bien dans cette église. C'est pas pour vous insulter, mais au ciel, ils chantent mieux que vous. D'accord? Et les études bibliques qu'on aura au ciel sont meilleures que les études bibliques qu'on a ici, parce que c'est Jésus lui-même qui les donne. D'accord? Et la maison que Jésus est allé au ciel nous préparer, j'espère que vous habitez dans une jolie maison, mais ce n'est rien comparé à ce que Jésus nous a préparé, d'accord? À la fin du livre de l'Apocalypse, nous allons voir une description de la ville où nous allons vivre éternellement. Namur est joli, mais ça n'a rien contre la Nouvelle Jérusalem. Anvers est encore joli aussi. Mais comparé à la Nouvelle Jérusalem, ce n'est rien. Au ciel, on voit les choses autrement. Et il faut monter au ciel et voir les choses comme on les voit du ciel pour avoir la proportion exacte. Vous avez remarqué que le diable, il arrive toujours à exagérer, à gonfler, n'est-ce pas? Au ciel, on voit les choses comme elles sont réellement, pas les mensonges que le diable sème toujours. Alors Jean dit ceci. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Ah! Si une porte est ouverte, qu'est-ce que ça nous permet? On peut y entrer, on peut regarder dedans. Tant que la porte est fermée, on ne sait pas comment ça est dedans, à l'intérieur, n'est-ce pas? On ne peut ni entrer, ni regarder. Mais maintenant, j'en vois une porte au ciel qui est ouverte. Ça permet de voir ce qui était caché jusqu'à maintenant. Mais ce qui est caché, maintenant, va être révélé plus tard. Et ce verset marque une transition de la vision du monde que nous avons vue jusqu'à présent, les églises dans le monde, à la vision du ciel. Si seulement nous, chrétiens, nous pourrions vivre toute notre vie, tous nos problèmes, toutes nos circonstances, contre l'arrière-plan de l'avenir au ciel, plutôt que de l'arrière-plan de tous les problèmes dans ce monde, on ne serait pas plus joyeux? C'est pour ça qu'un chrétien est joyeux. Il met les choses en proportion, il a un autre arrière-plan. Nous, je sais pas, vous regardez le journal télévisé de 7h, pas ce soir, parce que vous êtes ici, mais quand vous êtes à la maison, vous regardez le journal, c'est toujours triste. Il n'y a jamais de bonnes nouvelles. Ça va pas bien dans le monde, hein? Si? Ça va pas bien dans le monde. Et nous, chrétiens, parfois, nous laissons nos pensées envahir par le monde. Alors que, si nous avons nos pieds sur terre, ça c'est bon, mais notre tête doit déjà être au ciel, nous, dans l'esprit, comme Jean. Ézéchiel déjà, des siècles avant Jésus, au début de son livre, premier verset, il dit ceci, « Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. » Quand Jésus était baptisé, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent. Quand il est lapidé, Étienne dit, « Je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ça, c'est remarquable. Partout dans la Bible, quand on voit le Fils de Dieu au ciel, il est assis. N'est-ce pas? Il est assis à la droite de Dieu. Étienne est lapidé, il regarde en haut. Je ne vais pas dire qu'il ne sent pas le mal, la douleur des pierres, mais il le sent quand même autrement. Parce que ses yeux ne sont pas fixés sur la douleur et sur les pierres, mais sur le ciel. Il voit le ciel ouvert et il dit, je vois Jésus, pas assis, mais debout. Je ne sais pas comment, ce qu'il faut déduire de cela, je ne vais pas le prêcher, mais je vais vous dire ce que je pense moi. Quand vous recevez de la visite chez vous à la maison, vous vous levez pour accueillir votre visite, n'est-ce pas? Et voici quelle image. Jésus qui se lève pour accueillir l'âme du martyr. Cieux ouverts. Quand Pierre est sur le toit de la maison de Simon le courroyeur à Joppe, il vit le ciel ouvert. Et à Golgotha, quand Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Ça, c'est remarquable. Le voile du temple est 10 mètres de haut. Sinon, on l'aurait déchiré. On l'aurait déchiré d'en bas. Pour le déchirer d'en haut, il faut une échelle. Mais ce n'est pas l'homme qui le déchire, c'est le Seigneur. Dieu lui-même qui déchire le voile. Et pourquoi est-ce qu'il déchire le voile? Pour montrer que l'accès à Dieu qui, jusqu'à ce moment, était défendu, est maintenant ouvert. Et c'est Jésus qui l'a ouvert. Nous avons un accès, vous et moi, pécheurs que nous sommes, nous avons accès au ciel, n'est-ce pas? Sinon, à quoi ça sert de prier? Si nos prières restent devant la porte fermée du ciel? Non, la porte est ouverte. À tous ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, qui l'accepte comme Seigneur. Et que dit Jésus? Je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, sortira et trouvera des pâturages. Alors j'en dis après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, vous vous rappelez, c'était Jésus, ça? Il dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans la suite, ça veut dire à partir de maintenant, n'est-ce pas? C'est pas histoire, c'est avenir. C'est pas passé, c'est futur. Monte ici. Certains commentaires voient ici l'enlèvement de l'Église. Mais ce n'est pas de l'enlèvement de l'Église qu'il s'agit ici. Pourquoi? Nous sommes dans l'an 95 quand Jean écrit ceci. Aujourd'hui, nous sommes dans l'an 2015. Et pour autant que je sache, l'Église n'est pas encore enlevée. Si l'Église est déjà enlevée en 95, nous, on a un problème ici ce soir. Je me demande ce qu'on fait. Hein? Donc, il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'Église. Et même, il ne s'agit même pas de l'enlèvement physique de Jean. Spirituellement, en esprit, il est au ciel. Mais physiquement, il est toujours sur la terre. Non, il s'agit d'un enlèvement spirituel de l'apôtre, un peu semblable à l'expérience de l'apôtre Paul. Il en témoigne, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi dans jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Le troisième ciel, c'est quoi ça le troisième ciel? Non mais vous vous êtes jamais demandé ça? Pour nous c'est compliqué, troisième ciel on ne sait pas ce que c'est, un juif va vous dire ce que c'est pas compliqué du tout. Le premier ciel, c'est le bleu que nous voyons quand nous regardons, n'est-ce pas, en haut, les nuages, ça c'est le premier ciel. Deuxième ciel, c'est ce que nous appelons l'espace, là où se promènent le soleil, la lune, les étoiles. Et le troisième ciel, c'est ce que nous appelons ciel, c'est-à-dire là où Dieu habite et où un jour nous allons habiter éternellement. Et Paul dit, j'ai été enlevé jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'a pas permis à l'homme d'exprimer. Il s'agissait pas, là aussi, d'un enlèvement physique. Il s'agissait d'un enlèvement spirituel. Et que Dieu nous donne à nous aussi, dans l'esprit, de monter au ciel régulièrement. N'est-ce pas? De voir des choses comme Dieu les voit. D'entendre les choses de Dieu et pas seulement ce qu'on nous dit au journal. Il s'agit de vision spirituelle. Après cela, et ces mots introduisent ce passage au sujet de les choses, celles qui doivent arriver après elles, c'est-à-dire après les événements des chapitres 2 et 3, l'époque de l'Église. Mais maintenant une question, est-ce que ces mots sont prophétiquement chronologiques? Est-ce qu'ils indiquent l'ordre dans lequel les événements racontés par la suite auront lieu? Ou Est-ce que, après cela, indique plutôt l'ordre dans lequel Jean les a vus? Cette question a suscité une controverse eschatologique et théologique remarquable et considérable à travers des siècles. Est-ce qu'il s'agit d'une expérience personnelle de Jean? Est-ce que ça ne lui concerne que personnellement? Ou est-ce qu'il y a un message aussi pour nous? La réponse à cette question est très importante, parce qu'elle détermine notre compréhension de ce qui suit dans le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire l'avenir du monde et de l'Église. Et la question est résumée dans celle-ci. Est-ce que l'Église va passer par la grande tribulation? Nous, chrétiens, est-ce que nous vivrons, est-ce que nous expérimentons tous les horreurs de la grande tribulation? Bonne question, non? Parce que si oui, il faudrait qu'on se prépare. Examinons ce que dit la parole de Dieu. Jésus dit, alors la détresse sera grande. La détresse. Quelle est la différence entre là et une? Là, il n'y en a qu'une. Une, il peut y avoir plusieurs. Jésus parle de la grande détresse sera si grande. Et il dit qu'il n'y en a plus, comme il n'y a plus eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. La traduction Colombe remplace le mot détresse par tribulation. Et c'est le mot tribulation qui est employé plus loin dans le livre de l'Apocalypse. En somme, c'est la même chose. Mais il est certain donc qu'il va y avoir la grande détresse ou la grande tribulation dans l'avenir. Mais est-ce que cette grande tribulation va avoir lieu après, à la fin de l'ère de l'Église? Ou est-ce que l'Église va passer dans cette grande tribulation, va l'expérimenter? L'Église connaît aujourd'hui quatre réponses différentes à cette question. Beaucoup d'Églises, y compris la plupart des Églises évangéliques, croient que l'Église de Jésus-Christ sera enlevée avant la grande tribulation. Vous me suivez? Nous l'espérons en tout cas, n'est-ce pas? Même si on ne le croit pas, on l'espère. Une autre partie de l'Église croit que l'Église passera par la grande tribulation et ne sera enlevée qu'après la grande tribulation. Encore d'autres voient l'enlèvement pendant la grande tribulation, à la moitié. Et encore d'autres croient qu'il n'y a pas de grande tribulation littérale, mais qu'il faut comprendre cela symboliquement ou spirituellement. Qui a raison? Ah. Si nous sommes 100% honnêtes, nous devons admettre qu'aucun de ces quatre arguments n'est 100% étanche. Quand même, il y a énormément beaucoup plus d'indications dans la parole de Dieu qui soutiennent l'argument de l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation que pour les autres possibilités. Je vais essayer de les résumer sans entrer dans trop de détails, devenir trop compliqué théologiquement. Mais pour qu'on puisse quand même, je pense être à 99,9% certain que l'Église ne passera pas par la grande tribulation. D'abord, il n'y a nulle part dans la Bible une déclaration ou une indication que l'Église de Dieu va expérimenter la grande tribulation. Ce n'est pas déclaré et ce n'est pas indiqué. Au contraire, Paul écrit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Il veut dire par cela la colère de Dieu, si vous regardez le contexte. Aux Romains, il écrit, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et aux Thessaloniciens, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et Jésus dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ceux qui croient que l'Église va passer par la grande tribulation vont vous citer des autres textes. Et ces autres textes qu'ils vont vous citer sont des textes, des prophéties qui concernent Israël et les nations païennes. En effet, Israël et les nations païennes vont passer par la grande tribulation. Ça, c'est clair. Leur rencontre avec Christ et leur conversion au Christ n'auront lieu qu'à la fin de la grande tribulation, pas avant. Mais une partie de l'Église de Jésus-Christ, il y a déjà des siècles, a décidé et a proclamé et enseigne encore aujourd'hui que Dieu a remplacé Israël avec l'Église. Que maintenant le peuple choisi, le peuple élu, n'est plus littéralement le peuple juif, mais c'est l'Église. Et Dieu aurait fait cela pour punir les juifs parce qu'ils ont crucifié Jésus. Alors, si on croit cela, il est normal qu'on prenne les prophéties concernant Israël, pour la plupart dans l'Ancien Testament, et qu'on les applique à l'Église. Et si on fait ça, ce n'est pas difficile à déduire que l'Église va passer par la grande tribulation, parce qu'Israël et les nations païennes vont y passer. Mais est-ce qu'il est vrai que l'Église a remplacé Israël? Bien sûr que non. Israël est toujours un peuple, le peuple juif dans le plan de Dieu. Et des prophéties concernant Israël, l'accomplissement plutôt des prophéties concernant Israël se multiplie de nos jours, n'est-ce pas? Nous voyons les prophéties littéralement s'accomplir devant nos yeux. En plus, ceux qui adoptent les prophéties pour Israël et les appliquent à l'Église, je m'excuse de le dire, mais ce n'est pas honnête. Parce que si vous regardez leur théologie, ils n'adoptent que certaines prophéties. Ils adoptent toutes les prophéties de promesses, mais pas les prophéties de malédiction. Et il y a presque autant de prophéties de malédiction pour le peuple juif dans l'Ancien Testament que de promesses de bénédiction. Vous connaissez le genre de prophétie, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel, mon peuple, si vous agissez bien, je vous bénirai. Et si vous vous détournez de moi, je vous maudirai. N'est-ce pas? Ce genre de prophétie se répète plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Alors, si nous allons adopter les promesses pour l'Église, on devrait aussi adopter les malédictions, et ça, on ne le fait pas. Qu'est-ce que dit la Bible? Ceux qui croient que l'Église passe par la grande tribulation font une autre confusion encore. Ils confondent les trompettes de jugement. Nous allons les voir plus tard en Apocalypse 8 et 9. Ils confondent ces trompettes-là à la trompette qui sonnera à l'enlèvement de l'Église. Paul en parle, il dit, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous sommes à l'écoute, nous, hein, chrétiens. Nous sommes à l'écoute de la trompette. Parce que quand l'archange sonne la trompette, l'église de Dieu va être enlevée. N'est-ce pas? D'abord, les morts en Christ vont ressusciter, et puis nous les vivons. Je me suis demandé, frères et sœurs, pendant combien de temps est-ce que cette trompette va sonner? Qu'est-ce que vous pensez? Quelques secondes? Moi, j'espère que c'est quand même un peu plus long, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que si c'est un peu plus long, dès que je l'entends, je saute dans ma voiture, et entre chez moi et le cimetière où sont enterrés des dizaines de membres de notre assemblée d'Anvers, d'ex-membres, hein, il y a 3-4 kilomètres, et je vais foncer à 150 à l'heure. Hein, ils peuvent me flasher autant qu'ils veulent, parce que je voudrais voir ces tombeaux s'ouvrir et ces morts ressuscités. Pourtant, j'ai l'impression que ça ne va pas durer pendant une demi-heure. Ce sera quelques secondes. Parce qu'on va pas les rencontrer, ces ressuscités, au cimetière. On va les rencontrer dans les airs. Vous imaginez ça? J'essaye de m'imaginer. On peut pas l'imaginer. Mais c'est la vérité. C'est cette trompette. On est à l'écoute, nous. Il y a une différence entre la trompette qui sonne pour annoncer la résurrection des saints et l'enlèvement de l'Église, la trompette, et les trompettes qui sonneront pendant la grande tribulation pour annoncer des jugements. Les Juifs, eux, comprennent très bien la signification de la trompette. Quand on sonne la trompette, c'est pour, depuis le temps de l'Exode déjà, ça sert à rassembler le peuple pour qu'il part, n'est-ce pas? Ou il y a des gens qui enseignent qu'il y aurait seulement une partie de l'Église qui sera enlevée. Connaissez l'histoire des vierges sages et des vierges folles? Les vierges folles qui ne sont pas prêtes. Il y en a qui disent, ils ne seront donc pas enlevés, et donc une partie de l'Église passera par la grande tribulation. Et les autres, les vierges folles, les chrétiens qui ne sont pas prêts, eux devront donc passer par la grande tribulation, et ils doivent, pendant cette grande tribulation, être purifiés pour être dignes, comme les vierges sages, à être enlevés. Ça n'est pas seulement une doctrine qui n'est pas biblique, mais c'est une erreur qui est très grave, pour deux raisons. D'abord, ça suppose une espèce de purgatoire, qui est une doctrine catholique qui n'a absolument aucune base dans la parole de Dieu. Quand un chrétien meurt, son esprit et son âme quittent son corps et ne vont pas dans le purgatoire. Dans une fraction de seconde plus tard, ils sont déjà dans la présence de Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle, il n'y a que des billets simples au ciel. D'accord? Il n'y a pas de retour. Une mauvaise nouvelle, il n'y a que des billets simples pour l'enfer aussi. Mais ça, c'est une autre prédication. Et encore une raison qui est peut-être encore plus importante. Si nous croyons que une partie au moins de l'Église doit d'abord se purifier avant de pouvoir gagner le ciel, nous ne prêchons plus l'évangile de grâce. Nous y ajoutons des œuvres. Et à partir du moment que nous ajoutons des œuvres, nous n'avons plus d'évangile. Jésus est mort pour rien. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pas, il n'a pas attendu à mourir jusqu'à ce que nous soyons parfaits. Il est mort pour nous lorsque nous étions encore des pécheurs, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Qu'est-ce que c'est un don? Votre patron ne vous donne pas des dons. Votre salaire à la fin du mois, c'est pas un don. Vous avez travaillé, vous l'avez gagné, n'est-ce pas? Un don, c'est quelque chose qu'on reçoit alors qu'on n'a pas travaillé pour. On l'a peut-être même pas mérité dans le cas du salut éternel. Un don qu'on n'a pas du tout mérité parce qu'on le reçoit par la grâce. Et qu'est-ce que c'est la grâce? La faveur imméritée. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Non seulement grâce, mais gratuit aussi. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Ça, c'est l'Évangile. N'ajoutons pas quelque chose à cela. Il faut également faire une différence, une distinction claire, entre la venue de Jésus sur les nuées et la venue de Jésus sur la terre. La Bible, Ancien et Nouveau Testament, parle des deux. Et beaucoup de gens les confondent, quoique c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. Quand Jésus vient sur les nuées pour chercher son Église, enlever son Église, ses pieds ne se poseront pas sur la terre. Où est-ce que nous le rencontrerons? Pas sur la terre, mais dans les airs. N'est-ce pas? Il y a une sœur dans l'église d'Anvers qui va avoir un grand problème. Elle n'ose pas monter dans un avion. Toute sa vie, elle n'est jamais montée dans un avion. Son mari voudrait voir le monde. Ils n'ont vu qu'un tout petit peu de l'Europe. Parce qu'elle refuse de monter dans un avion. J'ai peur de voler, qu'elle dit. Je dis, à votre place, je ferai quelque chose à cela. Parce que quand Jésus revient, tu vas voler. Mais pas dans un avion. C'est encore pire. N'est-ce pas? Alors il faut commencer déjà? Non. On sera enlevé, frères et sœurs. J'essaie de m'imaginer ça. Moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de fois l'avion dans ma vie. Je n'aime pas voler non plus. Mais le jour où cette trompette va sonner, on va monter. Pas de contrôle des passeports. Faut pas être à l'aéroport 2-3 heures d'avance, porter des bagages. On va monter au ciel. On rencontrera Jésus lui-même. Sur les nuées. Quand on est dans l'avion, vous avez déjà été en avion et vous regardez. C'est quand même impressionnant de voir, de voler au-dessus des nuages. C'est impressionnant, n'est-ce pas? En avion. Qu'est-ce que ça va être quand on monte sur les nuages et qu'est-ce qu'on voit? Pas seulement le soleil au-dessus, mais Jésus. Sur les nuées. C'est ce qui nous attend. Il y a une différence entre ça Et quand il reviendra à la fin de la grande tribulation et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, au même endroit où il est monté au ciel, d'où il est monté au ciel. Nous allons fêter l'ascension d'ici quelques semaines. Le mot retour, en rapport au retour de Jésus, se trouve 24 fois dans le Nouveau Testament, et chaque fois, il s'agit du retour de Jésus sur la terre. Pas sa venue sur les nuées. Jésus dit, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de Dieu venant, pas revenant ou retournant, mais venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Ça, c'est quand il vient pour l'Église. Comparez cela à ce que Jésus dit quelques versets plus loin. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, et ils ne se doutaient rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Seigneur, le retour en grec. Sur la terre, donc. En plus, la venue de Jésus sur les nuées, c'est pour son Église. Et ça se passe comme un voleur dans la nuit, dit la Bible. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi aussi, vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est pour enlever son Église. Mais on saura quand il vient, à la fin de la grande tribulation, on pourrait très bien le calculer jusqu'au jour. Et le retour de Jésus sur la terre n'est pas en secret comme sur les nuages, c'est très public. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Il est à remarquer que l'Église mentionnée dans l'Apocalypse, au chapitre 1er, 2 et 3, n'est plus mentionné à partir de maintenant, même pas une seule fois, dans le livre de l'Apocalypse, jusqu'à la fin du livre, où l'Église revient avec Jésus. Il me semble que si l'Église passait par la grande tribulation, elle serait quand même mentionnée, mais pas une seule fois. La Bible enseigne que l'Église passera par des tribulations. Ça, c'est vrai. Pas l'Église à Bois-de-Villers, bien sûr. Hein? Mais la plupart des Églises, oui. Qu'est-ce que dit Jésus? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit pas peut-être, hein? Est-ce qu'il y a un chrétien ici parmi nous qui n'a jamais eu une seule tribulation? Non. Donc ce que dit Jésus est vrai. Vous aurez des tribulations. Pas peut-être, c'est sûr. Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais ces tribulations-là ne sont pas la grande tribulation. Et la Bible semble enseigner que l'Église sera enlevée avant, juste avant, que la grande tribulation ne commence. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns des autres par ces paroles. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et ça ne va pas durer longtemps, ce changement. En un clin d'œil. Et quand ça? À la dernière trompette. Quand nous arriverons chez Jésus sur les nuées, on n'arrivera pas avec tous nos bobos, toutes nos maladies, tous nos problèmes, n'est-ce pas? Tous ceux qui portent des lunettes ou des appareils pour auditifs, vous pouvez les laisser ici. Vous n'avez pas besoin. Quand on arrivera là, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle. Vous êtes content d'être venu ce soir, hein? Oui, hein? Moi aussi. Bon. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel, la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Intéressant ça. Quand le ciel s'ouvre, quelle est la première chose qu'Étienne a vue? Pas la Nouvelle Jérusalem. Pas cette fleuve de vie, pas ces arbres qui donnent leurs fruits 12 fois par an, pas ces maisons que Jésus dit, je vais préparer beaucoup de maisons. Quelle est la première chose qui attire son attention? Le trône au milieu du ciel. Je vis, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Ce trône est mentionné 9 fois dans ce chapitre et le chapitre qui suit. Et il est clair qu'au ciel, le centre du ciel, c'est le trône du Seigneur. N'est-ce pas? Trône de Dieu. Est-ce que son trône est au centre de notre vie, à nous? Est-ce que son trône est au centre de la vie de l'Église? Espérons. C'est comme ça que ça doit être. Le point central du ciel. Que symbolise un trône? Autorité. Souveraineté. Gouvernement. Jugement. Tous des attributs de Dieu. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi, mais si je vais partir en vacances quelque part où je n'ai jamais été, d'habitude j'achète un livre. Vous savez ce que je veux dire? Je veux savoir d'avance ce qu'il y a à voir dans ce pays ou dans cette ville. Et comme au ciel, je ne vais pas passer seulement quelques jours de vacances, mais beaucoup de jours d'éternité, ça m'intéresse encore plus de savoir comment est l'endroit où je vais vivre éternellement. Ça vous intéresse pas? Ça devrait vous intéresser. Mon épouse, un jour, elle est déjà au ciel, alors maintenant elle pourrait le savoir elle-même, mais elle me demande, dans cette maison au ciel, est-ce que tu penses qu'on pourrait choisir le papier peint? Elle était experte, mon épouse, de tapissage. C'était, elle aimait beaucoup faire ça, et elle était très bien là-dedans. Est-ce que tu penses qu'on pourrait choisir le tapissage? La Bible n'en parle pas, n'est-ce pas? Maintenant, elle aura la réponse. Elle a déjà sa maison. Mais il est quand même important pour un chrétien de savoir où est-ce que nous allons. Vous ne croyez pas? Mais tant que ce ne serait pas si bien que ça, après tout, on pourrait choisir de ne pas y aller. Heureusement que la Bible nous donne quand même des descriptions du ciel. Malheureusement, les descriptions sont difficiles, parce que les personnes qui les voient, comme Jean ici, il n'a pas de mots pour décrire ce qu'il voit. Alors, nous lisons de nouveau, je vous ai dit ça, je vous ai prévenu le premier soirée, la différence entre le symbolique et le littéral. Celui qui était assis avait l'aspect. Il était semblable à, n'est-ce pas? Ce n'est pas littéral, il avait l'aspect de une pierre de jaspe et de sardoine. Dieu n'est pas une pierre de jaspe et de sardoine, mais quand Jean l'a regardé, l'a vu sur le trône, il s'est dit, comment est-ce que je dois décrire ça? Comment est-ce que je dois le décrire? Et il dit, il a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Qu'est-ce que Jean essaye de faire ici? Il n'essaye pas de nous décrire le physique de Dieu, n'est-ce pas? C'est sa tête, ses bras, ses jambes. Ce qu'il essaye, et je crois que ça doit être encore plus difficile, mais c'est encore beaucoup plus important et plus impressionnant. Il essaye de décrire la gloire de Dieu. Comment voulez-vous, homme ou femme mortel, décrire la gloire de Dieu? Et Jean ne sait le faire autrement qu'en comparant ce qu'il voit à des pierres précieuses. Commençons par l'arc-en-ciel. Vous savez, l'arc-en-ciel, c'est une des cartes de visite de Dieu, n'est-ce pas? Il dit à Noé, « J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui seront avec vous, pour les générations à toujours. » J'ai placé mon arc dans la nue. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et quand j'aurai rassemblé les nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute la chair, et l'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Nous, chrétiens, quand nous voyons un arc-en-ciel, on pense toujours à ça. Moi, je pense toujours à Noé quand je vois un arc-en-ciel. Et un arc-en-ciel, c'est beau. On aime le voir. Pourquoi? Ça nous rappelle que Dieu nous aime. Ça nous rappelle l'alliance éternelle que Dieu fait avec l'homme. Et Dieu reste fidèle à ses promesses jusqu'à la fin du temps. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Vous avez remarqué dans la Bible, il n'y a aucune vraie description de Dieu, de sa physique, n'est-ce pas? Ce qui mesure 1m80 ou 2m, il pèse 70 kilos, 150? On ne sait pas. On n'a aucune idée de le physique de Dieu. Mais ici, comme je l'ai déjà dit, Jean n'essaie pas de décrire sa forme. Il essaie de décrire sa gloire. Et il compare cette gloire à deux pierres précieuses, le jaspe et la sardoine. Le jaspe, c'est un diamant de couleur claire, transparent, parfois un peu rougeâtre. Et la clarté et la transparence dont la Bible suggère la pureté. Le diamant est aussi une pierre très dure. Et le mot grec pour jaspe est constitué de deux mots qui signifient incassable et invincible. Il est clair que le jaspe caractérise Dieu vraiment comme il faut. La sardoine est une pierre verdâtre qui était utilisée à l'époque dans des bagues de cachet et qui avait comme ça, comme implication au temps biblique le salut et le jugement. Un juge avait une bague avec un cachet qu'il imposait sur l'acte de jugement. Et ces deux pierres précieuses figurent à plusieurs reprises dans la Bible. D'abord, dans l'éphod du souverain sacrificateur, l'espèce de gilet qu'il portait. Il y avait 12 pierres dessus qui représentaient les tribus d'Israël. Dieu dit à Moïse, tu feras la pectorale du jugement, artistement travaillée, tu le feras du même travail que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu pourpré cramoisi et de fil fin lin retors. Tu y enchasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Sardoine, le premier. Jaspe, le dernier. Et Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Suivez le symbolisme. Chacune de ces pierres, 12 pierres, représentait une des tribus d'Israël. Le sardoine représentait Ruben. Le premier-né des fils de Jacob. Et le jaspe représentait Benjamin, le dernier-né des fils de Jacob. Et le jaspe et le sardoine se trouvent aussi dans le mur et les fondements de la Nouvelle Jérusalem. La muraille a été construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Seconde, saphir, troisième, chalcédoine, quatrième, d'émeraude, cinquième, sardonique, sixième, sardoine. Et puis autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, les couronnes d'or. Donc, il voit d'abord le trône central, et puis il voit autour de ce trône central, 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Qui sont ces vieillards? Les pensionnés, comme moi? Ils portent des vêtements blancs. Et celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Plus loin, nous lisons, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête, des couronnes d'or. Ce sont donc pas des anges, hein? Parce que les anges ne doivent pas laver leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Il s'agit pas d'anges. Ils sont même distingués des anges dans le chapitre suivant. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards. Donc, les vieillards ne sont pas des anges. D'ailleurs, les vieillards portent des couronnes, et vous ne trouverez jamais dans la Bible des anges qui portent des couronnes. Non, en grec, ce sont des presbytéros, des anciens, dans le sens des anciens d'Israël, et dans le sens des anciens de l'Église. 12 donc qui représentent les 12 tribus d'Israël, et 12 qui représentent les 12 apôtres, qui représentent l'Église. Donc, qu'est-ce qui est représenté devant le trône de Dieu? Le peuple d'Israël et l'Église de Dieu. Et Jésus a promis, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, les 12 disciples, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Ils sont assis dans la présence de Dieu. Ils sont assis. Quand est-ce que vous asseyez? Quand vous avez fini votre travail, n'est-ce pas? Sinon, vous êtes toujours debout. Vous ne pouvez vous asseoir que quand tout le travail est fini. Ils ont accompli leur œuvre. Ils adorent Dieu. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils portent des couronnes. Et dans le Nouveau Testament, il y a deux sortes de couronnes. En grec, deux mots différents. Il y a des couronnes qui sont appelées en grec des stéphanos, c'est-à-dire la couronne de victoire qu'on donnait à quelqu'un qui était vainqueur dans les Jeux olympiques, par exemple, mais aussi dans une guerre, dans une bataille. Et il y avait aussi une autre couronne qui était des diadèmes, c'est-à-dire une couronne royale portée par des monarques. Jésus ne porte pas seulement le stéphanos, la couronne du vainqueur, mais aussi le diadème. Mais ces 24 vieillards ne portent pas des diadèmes. Ce sont pas des rois. Ce sont pas des monarques. Ils portent des stéphanos. Jésus porte des diadèmes. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et les couronnes portées par les vieillards témoignent donc de leur victoire sur le péché, sur le diable. Ils sont assis sur des trônes, symboles de gouvernement. Selon la promesse, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Jésus dit, je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous buviez, mangez, buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et Paul dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Toutes les trois des signes de la présence de Dieu. Les psalmes chantent, ton tonnerre éclata dans le tourbillon, les éclairs illuminèrent le monde, la terre s'émut et trembla. Ces éclairs illuminent le monde, la terre le voit et tremble. Il produit les éclairs et la pluie, signe de la présence de Dieu qui vient en jugement. Quand Moïse monte sur la montagne pour rencontrer Dieu et recevoir les tablettes des 10 commandements, il y eut des tonnerres et des éclairs. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous avons déjà vu ce problème-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Ça parle de le fait que l'esprit de Dieu est complet. La plénitude de sa perfection. Et puis, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, comme, de nouveau, hein, semblable à du cristal. Et remarquez la différence de nouveau entre le littéral et le symbolique, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Le prophète Ézéchiel a vu exactement la même chose. Il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Dans la Bible, la mer est parfois un symbole biblique pour les masses. Les masses des peuples, les nations. Oh, quelle rumeur des peuples nombreux, ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte des nations, elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu avant, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Semblable, hein? Seconde, semblable à un veau. Troisième, à la face d'un homme. Et le quatrième, être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Si vous voulez un peu de devoir ce soir, vous rentrez chez vous et vous essayez de dessiner ces êtres. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Ézéchiel les identifie comme des chérubins. Ésaïe en parle aussi des chérubins. Les chérubins sont des anges de rang élevé. Ézéchiel dit, les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Et c'était des animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve de Kébar, et je reconnus que c'était des chérubins. Et chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leur face était semblable à celle que j'avais vue près du fleuve de Kébar. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes. Et quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Vous rappelez que au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait des chérubins. Dieu dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins, placés sur l'arche du témoignage, et je donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Dans le livre de Samuel, il était monté sur un chérubin, il volait, il passait, il paraissait sur les ailes du vent. Premier être vivant, semblable à un lion, deuxième un veau, troisième à la face d'un homme, quatrième semblable à un aigle qui vole. Ces visages de ces quatre êtres vivants rappellent, représentent les bannières des tribus d'Israël. Chaque tribu d'Israël avait une bannière. Et quand dans le désert, les tribus d'Israël se levaient pour voyager, elles se levaient en groupe de trois. Elles voyageaient en groupe de trois. Et à la tête de chaque groupe de trois, il y avait une tribu. La première était Judas, le lion. Deuxième était Éphraïm, le veau. Troisième était Ruben, l'homme. Et le quatrième était Dan, l'aigle. Vous voyez, on retrouve les symboles, les mêmes symboles. Tout ce qui se passe sur la terre n'est qu'une imitation de ce qui se passe au ciel. Et tout ce qui est sur la terre et qui est temporaire est permanent et éternel au ciel. Et quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » L'adoration au ciel. Si vous voulez un séminaire sur l'adoration, on peut le baser là-dessus. Il y a 5 cantiques dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse. C'est le cantique des êtres vivants, le cantique de l'Église, et puis dans le chapitre suivant, un cantique des 24 vieillards, un cantique des anges et un cantique de toute la création. L'Église aujourd'hui produit énormément de cantiques, les uns plus beaux que les autres, n'est-ce pas? Mais au ciel, quel cantique! Lisez ces cantiques, ça va vous bénir. Il y a de l'adoration au ciel. Il y a de la musique au ciel. Jour et nuit, frères et sœurs, on n'arrête pas d'adorer. Nous, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je pense que non, parce que bien que la Bible ne parle pas de lit au ciel, ça c'est une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? La Bible ne parle pas de lit au ciel, mais la Bible parle de repos. Donc, on ne sera pas tous littéralement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il doit y avoir des équipes, n'est-ce pas? Il doit y avoir un tour de rôle. Mais devant le trône de Dieu, il y aura toujours l'adoration. Aujourd'hui aussi. Et dans le peuple de Dieu, dans le cœur du peuple de Dieu. Nous devons être occupés avec les choses du ciel 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. N'est-ce pas? On a commencé avec ça, je vais terminer avec ça. Montons avec Jean dans l'esprit au ciel. Voyons les choses sur la terre, les choses de notre vie, nos circonstances, nos situations, nos bobos, comme Dieu les voit. Ça ne va pas nécessairement les changer, les situations, les circonstances, mais ça va nous changer, nous, afin que nous les regardons, nous les vivons, nous les expérimentons tout à fait autrement. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup de votre attention. Dieu voulant, la fois prochaine, on parlera du chapitre 5 et aussi déjà une partie du chapitre 6. Dieu vous bénisse. Merci.